Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Plusieurs villages de la RDC ont du mal à devenir autonomes. Si dans certains coins, c'est le manque d'infrastructures de base, l'inaccessibilité à l'eau et à l'électricité, dans d'autres, c'est le manque de nourriture et autres produits des premières nécessités. Et pourtant, plusieurs villages ont des ressources naturelles à leur portée pour leur autonomie. Comment un village peut donc se prendre en charge avec ses ressources naturelles? On en parle avec Luc Loutala, président de l'ONG Espoir Tous et ambassadeur du réseau mondial des éco-villages. Encore une fois, bonjour Luc.
Bonjour Jody.
Alors, dites-nous, comment est-ce qu'un village peut devenir autonome?
D'abord,
qu'est-ce qu'on entend par autonomie?
Autonomie s'entend à deux niveaux, c'est-à-dire que c'est ce village, un village sous-entend une communauté qui est installée sur un territoire. Et donc, ce village est capable de s'autosuffire, donc de produire ce qui lui revient pour sa propre consommation en termes d'alimentation, en termes d'eau, donc répondre aux besoins sociaux de base, mais en même temps que ce village peut produire pour échanger avec les autres communautés dans les deux sens.
Alors, quel état des lieux vous faites de nos villages aujourd'hui?
D'abord,
est-ce que la plupart de nos villages sont autonomes ou pas?
Non, nos villages sont pauvres et la preuve d'ailleurs réside dans le fait que les villages se vident. Non seulement que le village se vide, mais en même temps que elles se privent de plus en plus de leurs ressources. Il faut voir que la déforestation avance et donc le sol s'appauvrit et qu'il y a l'exode rural des jeunes qui quittent de plus en plus nos villages et qui viennent s'installer en ville où il y a le chômage et tout le banditisme. Et donc de plus en plus les villages, et c'est l'état des lieux qui est fait de manière tout à fait scientifique, nos villages s'appauvrissent de plus en plus.
Nos villages s'appauvrissent, comme vous l'avez dit, et les gens préfèrent quitter les villages pour aller habiter dans les centres urbains. Alors, vous parlez du développement des villages. Les villages ont des ressources, lesquelles?
Chaque village, lequel qu'il soit, installé dans un désert ou en plein milieu de la forêt équatoriale, chaque village a ses ressources. Alors, dans l'optique des éco-villages, ça veut dire d'une approche où une communauté est appelée à se développer de manière autonome, ça veut dire dans les quatre dimensions, parce que l'autonomie aussi, elle est sociale, elle est économique, elle est écologique, elle est culturelle. Donc, le tout premier exercice sera d'identifier les ressources de ce village. Il va de soi que tous les villages n'auront pas les mêmes ressources, mais nous partons d'un postulat de base. Chaque village, absolument chaque village, a des ressources qu'il convient d'identifier. Donc, le travail des agents de développement, des acteurs de développement qui veulent travailler avec une communauté, sera de faire que cette communauté, elle-même, de manière très impliquée, arrive à identifier les ressources sur base de quelles elle va partir pour construire son rêve d'avenir qui est le rêve de développement. Et dans le passé, on a pu assister ici chez nous un tout petit peu à des ébauches de ce qu'on appelait des plans de développement locaux. Bon, qui n'était quand même pas holistique, ça veut dire qu'il ne tenait pas compte des quatre dimensions, mais là, c'est déjà le point de départ. Donc, au départ, c'est répondre aux 11 besoins de base, quelles sont les ressources que ce territoire a en termes de satisfaire l'agriculture. Est-ce qu'il y a le bois? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a des minéraux? Est-ce que, en fait... Mais également, comme je dis, dans le social, est-ce qu'on a des ressources, par exemple, dans le cadre du développement, dans le cadre de, dans tous les agronomes. Donc, on va faire un travail de facilitation avec la communauté pour l'aider absolument à identifier les différentes ressources. Et ça, c'est vraiment un travail de longue durée qui demande une grande préparation, un travail d'implication de toute la communauté.
Voilà. Donc, chaque village a des ressources qu'il faut découvrir et qu'il faut commencer à exploiter. Vous avez dit les ressources peuvent être sociales, écologiques, économiques et culturelles. Ouais. Alors, comment arriver à découvrir, à identifier ces ressources dans un village?
Le vrai problème, hein, vois-tu, je dis, c'est que souvent, dans nos communautés, nous avons des choses que nous ne voyons pas. Où nous avons des choses, on se dit, non, mais ça ne sert à rien, nous, on n'a rien. Bon, ça, déjà, c'est pas d'accord du tout. C'est que, je donne un exemple. On a visité des villages qui étaient installés dans le désert. Il faut voir un éco-village comme Sekem, où on a transformé complètement le désert dans un oasis. Et parfois, tu passes dans le village, tu arrives à Lou, hein, où tu compares avec Sekem, tu as l'impression que
Sekem se trouve
en Égypte.
En Égypte. Donc,
et tu as l'impression que parfois nos villages sont dans le désert et que des villages qui sont dans le désert sont dans la forêt. Donc, cela demande qu'on ait de l'expertise, de gens qui sont formés, et aujourd'hui la RDC de plus en plus commence à compter de cette expertise en matière du développement holistique. On va donc travailler avec la communauté. On va impliquer des gens qui ont de l'expertise pour arriver à identifier les différentes ressources. C'est en termes dans le social, mais pour partir, c'est quel type, par exemple, de nourriture cette communauté mange? Est-ce que le sol est capable de produire cette culture, cette alimentation dont elle s'est nourrie?
Mais généralement, dans nos villages, la terre est fertile.
Et généralement, dans nos villages, la terre est fertile. Même si aujourd'hui, la tendance s'inverse un tout petit peu et que la terre devient de plus en plus infertile.
Au niveau du village.
Et au niveau du village. Ah, okay. Il faut faire la route Kinshasa-Bandundu ou Kinshasa-Matadi pour se rendre compte de cette évidence qu'on produit de moins en moins. Le sol devient de plus en plus pauvre à cause, évidemment, de ce qu'on appelle les feux de brousse et les pratiques du jachère. Donc, on va identifier les ressources les plus prioritaires. C'est d'abord l'eau, c'est d'abord l'agriculture, c'est aussi est-ce que on a du bois, est-ce que on a du gibier, par exemple, quel type de gibier. Mais il faut aller plus loin si on veut construire le rêve avec une communauté à long terme. Est-ce qu'on a des minéraux dans ce village? Quel type de minéraux? Ce qui fait que, vous voyez, ça demande à la fois l'implication de la communauté, mais l'implication des politiques, mais la mise à contribution de toute l'expertise scientifique que l'on peut avoir. Si bien que moi, je me dis, par exemple, si on prend au niveau de notre pays, il suffirait de mettre à contribution que les jeunes gens fassent, à la fin de leurs études universitaires, des stages
de au niveau des villages.
Au niveau de leur village, absolument, oui. Parce que on a beaucoup de jeunes qui ont fini l'université, qui sont en plein ville, mais au juste, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils produisent?
Alors, après avoir identifié ces ressources que peut disposer un village, maintenant, comment les transformer pour que ces ressources puissent aider ces villages à devenir autonomes?
Alors là, ça devient intéressant, c'est la deuxième étape. C'est que, sur base des ressources qu'une communauté va identifier, elle va construire son rêve d'avenir. Les ressources ne sont pas seulement à exploiter aujourd'hui. Il faut maintenant aider la communauté et dire, ok, mais finalement, elle prend conscience. Et ça, c'est très important. Mm-hmm. La communauté prend conscience des ressources qui lui sont disponibles.
Oui.
Et alors, elle doit réfléchir. Généralement, cette phase de réflexion avec la communauté prend la période de ce qu'on appelle le temps de conception d'un rêve. Alors, quel type de société nous voulons construire avec notre village? Et là, le travail d'un facilitateur, d'un éducateur en éco-village, est d'aider alors la communauté à bâtir son rêve, notamment dans le domaine du social. Comment est-ce qu'on va développer le social de cette communauté? Notamment dans l'économie. L'économie, c'est notamment quel type d'agriculture on va opter. Aujourd'hui, on sait de plus en plus qu'il y a des pratiques qui appauvrissent le sol de plus en plus et que... Si, par exemple,
notamment l'effet de brousse.
Non seulement l'effet de brousse, mais l'utilisation de l'engrais. On a parlé des Monsanto, par exemple, où on va produire pendant 10 ans, et les 50 années à venir, vous avez la terre qui est complètement appauvrie. Donc, on va aider une communauté à construire son rêve d'avenir et mettre en place tout un plan qu'on appelle le plan de développement d'un éco-village qui va se baser sur le développement du social. Le développement de l'économique. Et l'économique va de ce qu'on produit à ce qu'on transforme. notamment la mise en œuvre des industries de transformation locale. Il faut qu'on y arrive. On peut vraiment le faire de manière tout à fait locale. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait que le monde bouge. C'est que partout dans le monde, le mouvement de développement de communautés est devenu absolument une priorité et toutes les politiques dans le monde s'y mettent absolument.
Bien, nous avons des auditeurs déjà en ligne qui voudraient participer à cette émission. Nous parlons de comment un village peut utiliser ses ressources et devenir autonome avec Luc Loutala. Il est président de l'ONG Espoir Tous et ambassadeur du réseau mondial des éco-villages. Kapala nous appelle des Moba. David est à Arou. Vous voulez également participer, appelez-nous au 081 890 63 94.
Du nouveau sur Radio Capi. Une heure pour parler des réalités quinoises de 16h à 17h, heure de Kinshasa. L'information de proximité en lingala et en français. Société, santé, environnement, économie, culture, sport et politique. Décryptage de l'actualité dans la capitale, vos communiqués et offres d'emploi, c'est dans InfoService. Au menu également, de la détente avec des humoristes de Kinshasa. Le décrochage de Kinshasa, c'est Radio Capi, près de chez vous.
Comment un village peut développer ses ressources afin de devenir autonome? Kapala, vous êtes à Moba, bonjour.
Bonjour monsieur, je dis Kassama, bonjour, je suis tellement content de m'avoir associé à votre émission, je dis Kassama.
Quelle
est votre question? J'avais vraiment une suggestion ainsi que mon inquiétude en est que nous qui sommes vraiment villageois, nous sommes tellement villageois ici, que, comme ici chez nous à Moba. Comment est-ce que, c'est une question que j'adresse à notre invité, comment est-ce que nous pouvons nous développer, nous pouvons devenir autonomes aussi longtemps que nous ne connaissons pas, nous ne connaissons pas des ressources. Nous sommes tellement ignorants. Et au moment où nous avons les universitaires, les agronomes qui voient tout simplement que avec notre pays, nous devons assumer notre responsabilité et qui sont cadres. Ils doivent assurer leur responsabilité tout en éveillant la population, tout en se retrouvant sur le terrain pour éveiller la conscience des uns des autres, à ce qu'ils puissent savoir quelles sont les ressources. En tout cas, c'est une question là que je déplore.
D'accord.
Puis j'ai ma question. Oui.
D'accord. Vous avez une autre question? Deuxième question, rapidement.
En tout cas, c'est juste cette préoccupation.
D'accord.
Que j'avais, monsieur.
Merci. Merci, Kapala. David, vous êtes à Arou. Bonjour. Et quelle est votre question?
Oui, bonjour. Je commence par vous remercier en rapport avec la pertinence vraiment du sujet. Et je commence par une suggestion. Vraiment, c'est une très belle émission. S'il fallait aussi passer ça à langue locale. Parce que la plupart de villageois, ils n'écoutent pas le français. Et quand on va animer l'émission en français, en tout cas, ce sera limitatif. Alors, je veux maintenant droitement poser mes petites questions.
Oui.
Je crois l'intervenant qui a parlé avant moi, il a soulevé un des aspects. Mais la question que je veux bien poser, ça concerne l'agent... Qui est l'agent propulseur de développement dans un village? Si l'invité pourra vraiment nous proposer un agent, je ne sais pas, une institution, ainsi de suite. Deuxième question, c'est en rapport avec le plan. En tout cas, je le suis avec beaucoup d'intérêt. Il a parlé, il a donné quelques expériences en Égypte et dans les montres. Alors, quel est le bon plan de développement des villages qui peut être appliqué chez nous en RDC ou dans nos villages RD congolais. Et peut-être un petit sous-point là, en rapport avec la politique de développement, qui doit définir la politique de développement d'un village? Ah, merci, j'ai dit.
Je vous en prie, bonne journée. Bien, monsieur Luc, vous avez la parole. La première question des Kapala depuis Mobaïdi, comment voulez-vous développer les villages alors qu'il y a l'ignorance, hein? Les villageois ignorent souvent les ressources qui sont à leur disposition.
Effectivement, hein, moi, bah, c'est une très belle cité, hein. Je vois, il y a beaucoup de manguiers à Moba, il y a le fleuve, il y a la terre qui est fertile, et puis sur la route en Koro, vous avez encore énormément de forêts, et lorsque vous reliez Moba à Nyunzu, c'est encore énormément de ressources forestières, et avec une route qui débouche sur Lubumbashi. Donc, effectivement, la grande des questions, comme nous l'avons dit, une communauté peut avoir des ressources, mais n'a pas conscience qu'elle a ces ressources-là. Et ceci revient un tout petit peu également à rejoindre la question que David a posée depuis Yarou. Ça veut dire, il se pose maintenant la question comment faire pour qu'une communauté, en fait, évalue ses propres ressources et impulse, mette en place en chantier un plan de développement qui va définir, en fait, sa durabilité et son bonheur.
Et alors, comment voulez-vous développer un village alors que les gens sont ignorants? Vous avez même suivi, un auditeur a dit, certains ne comprennent même pas le français parce qu'ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas étudié. Vous voyez, il y a des analphabètes. Mais comment voulez-vous développer un village alors qu'il n'y a pas eu encore eu le développement humain par l'éducation?
Ouais, tout à fait. Alors, ça pose le problème à deux niveaux. L'adaptation du système éducatif par rapport aux besoins de développement des communautés. Ça, c'est un. Mais deux, la formation des acteurs de développement. Et c'est sur ça que nous travaillons. Espoir pour tous, c'est le réseau mondial des écovillages. Donc, nous avons un plan pour le pays et au courant du mois de septembre, ici, nous sommes à Ibi Village, qui est un village qui est déjà suffisamment développé et où nous allons effectivement faire un travail comme celui-ci, où on va former non seulement, c'est un noyau à peu près de 40 personnes déjà. Et je crois qu'au niveau du pays, les politiques de développement...
Vous allez mettre en place des comités de développement, c'est ça?
Non, Ibi, c'est déjà un village qui est suffisamment structuré, qui est connu au niveau mondial, vous savez, dans l'environnement. Mais il y a question, comme je dis, comme la plupart de nos villages, la vie se fonde sur un ou deux aspects. Vous verrez que nos villages souvent se fondent où on a du gibier, où on fait l'agriculture, ça se limite là. Alors que, effectivement, le village contient plusieurs ressources qui peuvent permettre de développer à la fois le social, l'économique, l'écologique. L'écologique, je vais dire, c'est des questions d'énergie. Hein, comment on va utiliser l'énergie? Non seulement l'énergie pour chauffer, mais également l'énergie pour éclairer. Les questions de l'eau, les questions de protection de l'environnement, les questions de production d'outils qui peuvent permettre qu'une communauté va se mettre en échange avec une autre communauté. Je vais donner un exemple tout à fait simple. Par exemple, pour la ville de Moba. La ville de Moba est bien placée pour devenir un véritable chantier qui peut alimenter la ville de Lubumbashi, par exemple, ou la ville de Kalemi. Mais là, ça dépend à la fois qu'on aide la communauté à identifier les ressources et qu'il y ait des acteurs qui conduisent effectivement ce processus de transition et de construction du développement.
Bien, Gaël nous appelle de Lubumbashi et Clément de Kananga. Gaël, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour Jody, bonjour aussi à notre invité. J'aimerais poser la question par rapport au sujet du jour, parce que moi, l'année passée, j'ai passé ma villégiature au village tout à 25 km de Lubumbashi ici. Je remarquais quelque chose que l'on faisait, les gens qui cultivaient le manioc, j'avais posé la question comment ils pouvaient encore cultiver le même sol lorsque le sol était encore fertile. Ils m'ont dit que c'est après avoir fait la récolte de ces maniocs-là, 3 ans, on laisse la terre qu'on avait cultivée, 3 ans après, et on revient et on cultive, le sol devient encore fertile. Alors, j'aimerais poser cette question à l'invité s'il pourra me dire. La deuxième question, c'est que lorsqu'il parle de l'autonomie du village, nous voyons l'indépendance de ce village-là. Alors, moi, je ne comprends pas comment il veut que ce village qui envoisine la ville puisse venir encore approvisionner les ressources alimentaires aux villes. Est-ce que là, en ce moment, allons-nous parler de l'autonomie du village? Parce que lorsque vous prenez tout ce que vous cultivez et que vous le ravitaillez dans des villes, vous allez voir qu'il y aura encore carence dans des stocks et que les villageois encore seront
seront obligés de quitter leur village et aller s'approvisionner en ville. Vous ne voyez pas que ça, ce sera un cycle vicieux.
D'accord, merci. Clément, vous êtes à Kananga, bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour, Jody Daniel Nkashama, bonjour aussi à l'invité de la Radio Kapi.
On vous écoute.
Selon le sujet que l'invité est en train normalement de débattre sur la Radio Kapi ou l'antenne de la Radio Kapi, je l'ai remarqué, il dit qu'il y a parfois que les enfants, soit les jeunes garçons comme Clément, qui se donnent normalement le courage de se déplacer du village vers la ville, où sur la ville, normalement, on trouve un taux de chômage élevé. Mais selon mes remarques, normalement, je dis, il est vrai qu'au village, si la jeunesse peut normalement se retrouver, c'est à travers soit le levage, soit l'agriculture. Mais selon mes remarques, normalement, j'ai retrouvé qu'en agriculture, il y a parfois les gens qui utilisent les fétiches pour traverser les champs d'autrui et les choses qui parviennent vraiment à faner, soit vraiment jaunir, sans pour autant donner de bons résultats. Et par là, les jeunes comme Clément se découragent totalement pour aller où ils peuvent se sentir vraiment à l'aise et puis travailler sans pour autant et vivre des histoires pareilles. Aussi en élevage, parfois, ce sont les chèvres qui sont mal entretenues, les voisins qui ne supportent pas vraiment, où ils voient, non, voilà, un type comme Clément qui en a 6, 3 ou 4, ça cause des problèmes de poules même. Mais dans quel cadre, normalement, les jeunes peuvent se situer pour vraiment se retrouver dans le secteur vraiment agricole ou bien, normalement, élevage.
D'accord.
C'est la deuxième question que je voudrais juste demander à l'invité.
Oui.
C'est vrai que les jeunes, comme nous, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre comme chômage, il peut y avoir certaines sources que nous devons exploiter au village. Mais c'est vraiment très compliqué par nos chefs coutumiers qui n'arrivent pas à accepter à ce que les jeunes comme Clément puissent vraiment s'en sortir, soit vraiment vivre d'une bonne manière qui surpasse vraiment la façon dont le chef est en train de vivre. Parfois, il y a des chefs très féticheurs, les autres parfois sont des sorciers qui ne veulent pas vraiment le bon développement de la jeunesse.
D'accord, merci. On a...
Juste pour s'en sortir.
Merci. Donc, voilà, monsieur Loutala, ça, c'est un problème. Hein. Les gens pensent qu'au village, il y a des fétiches. On détruit les champs des autres en utilisant les fétiches. Et beaucoup de jeunes gens fouillent les villages. Ils se disent, ah, là-bas, il y a des sorciers, il y a des féticheurs. Et ils vont, vivre dans les centres urbains.
Effectivement. Bon, je réponds un peu à Clément avec une autre anecdote qui vient d'ailleurs. Bon, vous savez, on a ici, dans le Congo central, le pont Maréchal. On a raconté beaucoup d'histoires autour de la construction de ce pont Maréchal. Notamment qu'il y a des Japonais qui sont venus, un Japonais qui s'est plongé dans l'eau pendant 3 jours.
Oui.
Parce qu'il y avait des esprits qui empêchaient que l'on construise ce pont.
Il y a un bengou à cet endroit.
Absolument. Et voilà, il y a un Japonais qui est venu, qui a plongé, qui a attrapé, qui a mis dans la bouteille.
Sirène dans la bouteille et finalement, la bouteille s'est brisée.
Absolument. On a pu construire.
Il a été tué par la suite.
Oui, par la suite, il est décédé. Ça veut dire, la question de fétiche, elle est culturelle. Et nous avons dit que pour développer une communauté, il faut vraiment voir les 4 dimensions. Le social, l'économique, l'écologique et le culturel. Donc, pour une communauté donnée, il faudra absolument tenir compte de ça. Mais les fétiches, on les prend dans 2 sens. Il est important que les acteurs qui impulsent le développement soient suffisamment avisés pour impliquer tout le monde, même le chef de village qui est féticheur.
Dans quelle mesure? Il faut l'impliquer aussi dans le développement.
Absolument. Dans quelle mesure est-ce que si réellement il y a fétiche, on ne pourrait pas réfléchir que ces fétiches servent à fertiliser le sol, à faire que la croissance soit plus fertile,
oui,
à faire qu'on utilise ces fétiches pour construire un pont. Alors, est-ce que on pourrait mettre au défi les gens qui possèdent les fétiches dans les villages pour voir s'ils sont capables de le mettre de l'autre côté? Ça, c'est tout un travail à faire dans le domaine culture, dans la dimension culturelle. Ça veut dire, le champ du développement reste chez nous totalement ouvert. Je donnais l'exemple, par exemple, les Japonais, les Chinois, on raconte excessivement des choses élucubrantes sur la façon dont ils construisent le pont, où ils font des choses. Est-ce que chez nous, on pourrait y arriver? Mais pour répondre à la question de l'autonomie que Gaël a posée, l'autonomie, nous l'avons dit, c'est la capacité qu'un village produise pour répondre d'abord à ses besoins. Mais ce n'est pas seulement l'agriculture, mais c'est également l'habitat, mais c'est également l'industrie, c'est également la production de l'énergie. Mais ensuite, une communauté, un village, doit anticiper dans son rêve d'avenir qu'elle ne restera pas enfermée sur elle-même. En quoi est-ce qu'elle va échanger avec les autres? Qu'est-ce que le village à côté a que eux n'ont pas? Qu'est-ce que eux ont que le village à côté n'a pas? Et donc, le plan du développement de ce village va dépendre effectivement de l'identification des ressources disponibles et de la capacité d'exploiter ces ressources pour s'autosuffire, d'abord répondre aux besoins de cette communauté et échanger avec les autres communautés.
Van Trezor nous appelle des Kananga. Bonjour Van.
Oui, bonjour Jody, bonjour également à notre invité. J'ai des petites préoccupations à poser à notre invité. En suivant comme ça notre invité, lorsqu'il a commencé les explications, il a parlé tout d'abord de l'identification des richesses que nos villages possèdent. Bon, avec des précisions, j'espère que nos villages, souvent, lorsqu'on passe à cette étape d'identification, nous avons de l'élevage, chasse, pêche aussi, agriculture. Maintenant, mon inquiétude, c'est au niveau des explications de notre invité. Juste là, je n'arrive pas à comprendre réellement comment se prendre en charge, parce que l'autonomie, c'est prendre en charge. Quelles sont les techniques et méthodes que l'invité peut donner à ses villageois de se prendre en charge, parce que depuis qu'il a parlé, je ne vois pas la clarté dans ses explications. Et aussi, j'ai cherché à poser une deuxième préoccupation à l'invité. Est-ce que réellement, il faut avoir des personnes comme lui pour faire développer, soit pour passer à cette étape d'autonomie, soit de se prendre en charge dans le village? Parce que dans ses explications, c'est comme s'il faut avoir des techniciens, des scientifiques qui peuvent aider nos villages à se prendre en charge. C'est ça des préoccupations que je cherchais à poser. Merci.
Bien. Ibrahim, vous êtes à Bounia. Bonjour et quelle est votre question?
Oui, bonjour. Le sujet est tellement intéressant que je voudrais poser une question à l'intervenant, à l'invité du jour.
Oui.
En fait, par rapport à la mise en œuvre de son approche éco-village, j'aimerais savoir quel mécanisme il met en place pour que cette approche puisse atteindre le maximum de villages en République démocratique du Congo. En plus, il s'est qualifié ambassadeur mondial de éco-village. Alors, est-ce qu'il connaît le nombre de villages en République démocratique du Congo avant de devenir ambassadeur mondial?
Voilà. Monsieur Jean, Luc Loutala, vous avez la parole.
Alors, petite rectification, je suis l'ambassadeur, ça veut dire la personne désignée pour le Congo du réseau mondial des éco-villages. Je ne suis pas l'ambassadeur mondial. Deuxième chose, effectivement, il faut de l'expertise. Nous sommes sur des domaines qui demandent absolument que l'on ait de l'expertise. Et il est question de répandre cette expertise, pas de la conserver. Et c'est pourquoi nous faisons le travail de former, de multiplier des pionniers. Et chaque année, nous organisons un atelier intensif sur les éco-villages au niveau de la République démocratique du Congo. Maintenant, au niveau du Congo, nous avons un plan ambitieux, mais il faut voir que nous ne pouvons pas nous substituer au pouvoir public. Nous n'avons pas autant de moyens et nous n'avons pas la stupide ambition de nous substituer au pouvoir public. Nous faisons ce que nous faisons, la vulgarisation et la formation des acteurs, et c'est ce que nous allons faire effectivement du 12 au 24 de ce mois à Ibi Village. Maintenant, dans les études que nous avons pu faire, il est possible dans 10 ans qui viennent, si on a vraiment les moyens, ça veut dire à hauteur de... Il y a un budget qui existe, que dans les 10 ans à venir, on pourrait arriver à faire la transition d'au moins 36 000 villages qui pourraient passer du stade du village classique au statut d'éco-village. Là, la question...
Quand on a les statuts d'éco-village, qu'est-ce que cela implique hein,
Cela implique qu'on a une communauté qui est stable, qui est développé socialement, le social est développé.
Le développement durable.
Oui, l'économie est développée. C'est une communauté qui connaît les valeurs écologiques, l'environnement, la lumière, les questions d'énergie, les questions d'eau sont résolues, mais aussi le culturel. Alors là, c'est pour répondre un peu à la question de Van. Beaucoup de gens pensent que les ressources, c'est seulement l'élevage, la pêche, l'agriculture. Non, même la culture. Je donne un exemple. Lorsque on se retrouve dans les conférences internationales, on vous dit que chacun amène les choses de sa culture. Or, nous voyons que aujourd'hui, même l'aspect culturel est négligé chez nous. Alors que la culture a la capacité de, une grande capacité de productivité qui peut rapporter énormément à une communauté donnée. Donc, ça c'est pour répondre. Une communauté se prend en charge lorsque elle a identifié ses besoins et qu'elle a bâti, elle a mis en place un projet pour répondre à ses besoins réalisés. Ça va des maisons qu'on va construire, de la nourriture qu'on va manger, l'eau qu'on veut avoir, où est-ce qu'on va, comment on va éduquer les enfants, comment on va protéger l'environnement, comment dans 20 ans on peut faire que les gens quittent la ville pour venir, par exemple, à Kananga. Ouais. Oui, donc autour de Kananga, effectivement.
Mais dans certains villages, il y a ce qu'on appelle les comités locaux de développement.
Oui, on
les
a...
Les comités qui sont là pour établir, élaborer des plans de développement.
Oui, je sais que cela a dépendu pendant un moment d'une impulsion qui est venue des programmes. C'était une bonne initiative, mais il faut voir que c'est...
Mais qui n'a pas bien marché.
Qui n'a pas bien marché, du même coup, qui n'était pas holistique. Les programmes, les plans locaux de développement qui avaient été établis manquaient d'holisticité et ne prenaient pas les quatre dimensions sur lesquelles on peut fonder une véritable durabilité.
Voilà, ces villages ont manqué, n'est-ce pas? Ces programmes, vous avez dit, ont manqué tous les éléments qu'il fallait pour assurer les développements. Alors, en définitive, pour terminer, qu'est-ce que les auditeurs peuvent retenir par rapport au développement des villages?
Alors, Van a dit comment on peut se prendre en charge. C'est que à partir d'aujourd'hui, les jeunes qui nous entendent ou que ce soit peuvent se regrouper et dire mais qu'est-ce que nous on a effectivement. Et puis, il faudrait quand même être appuyé pour construire le rêve de l'avenir par rapport aux ressources que l'on a. Et là, on dit souvent la question des moyens se pose, mais c'est une question qui est totalement fallacieuse. Parce qu'aujourd'hui, il y a des méthodes pour faire que le sol qui est pauvre, comme on disait tout à l'heure par Van, que après 3 mois ou 3 ans, le sol est devenu pauvre. Aujourd'hui, avec les éco-villages, il y a la manière de pérenniser, par exemple,
et
l'usage
de compost.
Les
éco-villages, c'est un programme qui prévoit de développer combien de villages à travers la RDC?
Dans les 10 ans à venir, avec les moyens, on peut arriver à développer 36 000 villages.
36 000 villages.
Oui, mais il faudrait que, absolument, c'est mettre en place 4 centres de formation à travers le pays, donc diviser le pays en 4, et travailler sur une ambition de 36 000 villages avec autour de plus de 2 800 000 personnes qui seraient directement impliquées, qui pourraient acquérir des capacités pour devenir des agents des développements locaux capables d'encadrer les communautés.
On va terminer avec la question de Philippe de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Philippe. Veuillez à réduire le volume de votre radio. Vous allez suivre à partir de vos téléphones.
Allô?
D'accord, allez-y.
Oui, c'est Philippe Mazanga. Je suis ingénieur agronome forestier. Je suis tellement intéressé. C'est la meilleure émission que vous faites aujourd'hui. À l'invité, pour ne pas aller trop loin, je voudrais simplement avoir ses références pour que je puisse les rencontrer et voir faire parce que l'émission est tellement intéressante.
D'accord. Est-ce que vous pouvez donner un numéro par lequel
oui,
il peut vous joindre?
081-520-3199, 081-520-3199. Et comme dit mon nom, c'est Luc Loutala.
C'est Luc Loutala. Alors Luc, pour terminer, vraiment pour boucler cette fois-ci. Ailleurs, vous verrez, pendant les vacances, les gens retournent dans leur village, en Afrique du Sud par exemple, et les villages sont très développés. Mais ici chez nous, on a tendance à aller en Europe et ailleurs. Mais pourquoi les gens craignent et ne rentrent pas dans leur village et ne développent pas leur village, ne construisent pas dans leur village?
Oui, et ça c'est l'ambition en fait. Il faut inverser la tendance et il faudrait, si nous voulons développer le Congo, nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui que de nous dire nous devons mettre la priorité sur les villages parce que la seule équilibre économique, social, culturel possible, même écologique, réside dans l'équilibre de développement de villages. Il faut doter les villages, par exemple, quand on parlait des ressources, c'est voir comment, si on a des invités, ils vont rester où. C'est une ressource. Et quand il y a un invité qui vient dans un village, on en a 10, c'est de l'argent qui circule, ils vont acheter des choses.
Faut pas craindre les fétiches, hein. Il faut retourner au village et les développer. Merci Luc Loutala, président de l'ONG Espoir, tous ces ambassadeurs du réseau mondial des écovillages. Village. Bonne journée.
Bonne journée à toi. Merci.